France Culture.
Pollution de l'air ambiant en France, quel est le prix à payer? Selon les rapports de Santé publique France, dont le dernier a été rendu public fin janvier, l'exposition au long cours à la pollution de l'air ambiant en France hexagonale est non seulement responsable d'environ 40 000 décès par an et du développement de maladies chroniques respiratoires, cardiovasculaires ou encore métaboliques, mais elle se solde aussi par un impact économique de près de 17 milliards d'euros par an. Alors comment sommes-nous arrivés là? Quelles normes s'imposent aux États? Où se situe la France dans le respect de ses limitations? Quelles solutions et leviers d'action sont à la disposition des citoyens et des pouvoirs publics pour garantir la santé de tous? Autant de sujets que nous allons traiter dans le vif, justement, avec nos trois invités. Guillaume Boulanger, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence. Vous êtes responsable de l'unité qualité des milieux de vie et santé des populations à Santé publique France, et donc vous avez co-coordonné le rapport rendu public fin janvier. En distanciel est avec nous Olivier Chanel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, École d'économie Aix-Marseille, et vous avez donc co-coordonné ce rapport de Santé publique France. Et je précise que vous êtes également coordinateur avec Guillaume Faburel du livre « L'environnement dans la décision publique », un livre paru chez Economica. Et avec nous, Fanchon Barba-Lehmann. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice du réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Et avec vous, on va comprendre effectivement combien ce réseau œuvre sur le terrain auprès des élus, des décideurs, des pouvoirs publics. Merci à vous trois et merci aussi à nos auditeurs qui nous rejoignent dans le magazine de l'environnement de France Culture. Émission toujours en partenariat avec le journal Le Monde, préparée donc par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, celle de Vanessa Chang, Christine Anzano et Eva Canneparo des services de documentation de Radio France. Et l'émission est toujours réalisée avec brio par Alexandra Malka, avec aussi brio à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Et pour mieux comprendre l'importance des résultats de votre rapport, Guillaume Boulanger, Olivier Chanel, peut-être en guise d'introduction, il est important de rentrer justement dans les objectifs. Quels furent les objectifs et le cadre de cette étude? Il faut préciser peut-être que cette étude, elle a été menée dans les années, enfin sur les années 2016-2019 en France, juste avant la période Covid.
Effectivement, peut-être que pour rappeler quelques chiffres et le cadre de cette étude. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on étudie les effets de la pollution de l'air sur la santé des populations. Et donc on voit que la pollution de l'air, en tout cas, constitue l'un des premiers facteurs environnementaux en termes de santé publique. On avait publié il y a quelques années un chiffre sur 40 000 décès annuels par an dus à la pollution de l'air. Et pour la première fois, on a évalué l'impact de la pollution de l'air sur la survenue de maladies, comme vous l'avez dit, respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques. Pourquoi on a pu faire ça? On a maintenant des données qui nous permettent déjà de pouvoir confirmer le lien entre l'exposition à la pollution de l'air et l'apparition de ses effets. Alors, pour les effets respiratoires, c'est l'asthme, c'est des cancers du poumon. Pour les effets également métaboliques, qu'on entend peu parler, on pense souvent aux effets respiratoires et cardiovasculaires pour la pollution de l'air. La survenue de diabète de type 2, et pour les effets cardiovasculaires, c'est des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus et de l'hypertension.
D'où le choix de travailler sur 8 maladies.
Exactement. On sait par ailleurs que la pollution de l'air peut être à l'origine d'autres maladies, notamment neurodégénératives, les démences ou des maladies du spectre autistique, ou également peut avoir un impact sur la grossesse. Il y a des études qui mettent en avant des faibles poids de naissance dus à une exposition de la mère pendant la grossesse, ou des petits poids de naissance ou des naissances prématurées. Mais là, on dispose de données consolidées pour établir un lien entre la pollution de l'air et la survenue de ces maladies-là. Et donc, pour la première fois en France, on a pu estimer cet impact qui est conséquent et qui rappelle encore une fois l'importance d'agir sur la pollution de l'air, puisque pour donner quelques exemples, la pollution de l'air peut être à l'origine chaque année de plus de 4000 cas de cancer du poumon, 40 000 cas d'asthme chez l'enfant, 78 000 cas d'hypertension, et bon, je ne vais pas donner tous les chiffres, mais ça illustre bien le fardeau important. Mmh. Et ce qu'il y a à noter, c'est que toute la population est exposée à la pollution de l'air, en milieu urbain, en milieu rural, mais on y reviendra. Alors pourquoi on s'est concentré sur 2016-2019 ? Pour quantifier ces impacts-là, on se concentre pas sur une année, mais on prend une période de 3 ans. Puisqu'il peut y avoir des variations de la pollution d'une année à l'autre, dues à des phénomènes météorologiques ou autres. Et donc, on préfère avoir une moyenne, agréger ces données sur 3 ans, ce qui nous donne à peu près une exposition moyenne de la population sur le long cours. Effectivement, comme vous l'avez souligné, on a pris en compte une exposition hors situation exceptionnelle, c'est-à-dire Covid. Et d'ailleurs, le Covid a été pour nous une sorte de laboratoire intéressant, puisqu'on a pu estimer que, avec les limitations industrielles ou du trafic, on a réduit largement la concentration des polluants et donc l'impact aussi sur la santé des populations.
Alors, vous avez donc travaillé aussi avec des instituts de recherche, on imagine, qu'on peut mentionner peut-être, l'INSERM ou d'autres ?
Évidemment, on ne travaille pas tout seul à la Santé publique France. Nous, nos compétences et nos missions concernent la quantification de l'impact sur la santé, de mieux comprendre et d'approfondir les connaissances entre le lien entre pollution de l'air et la santé. Mais on a besoin d'autres compétences et notamment des instituts, en l'occurrence l'INERIS, qui modélisent et évaluent l'exposition de la population. Donc eux, ce sont des spécialistes et ils peuvent, à des mailles très fines, de 1 km sur 1 km, 4 km sur 4 km sur des zones rurales, évaluer l'exposition de la population à différents polluants, notamment les particules fines, des particules qui ont un diamètre très très petit, et puis également le dioxyde d'azote ou l'ozone ou d'autres polluants. Et on travaille également donc avec des économistes pour évaluer le poids économique de cet impact sanitaire.
Et on va en parler avec Olivier Chanel dans un instant. Peut-être pour être vraiment totalement précis, quand on parle des pollutions nocives qui sont générées, donc notamment les particules fines et le dioxyde d'azote, générées par qui et par quoi ?
Alors nous, on s'intéresse évidemment aux pollutions de l'air qui sont en lien avec les activités humaines. Et souvent, on cite 4 sources. Alors, on parle souvent du trafic routier, qui est notamment à une place importante dans les zones urbaines denses, dans les grands centres-villes, métropoles. Mais il n'y a pas que cette source-là, il y a aussi l'industrie, l'agriculture, on y pense très peu, et enfin le chauffage au bois, combustion. Et pour vous donner un exemple, parce qu'on y pense peu, mais dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou d'autres, où on pense que le trafic est à l'origine d'une pollution importante, c'est vrai, le trafic émet notamment beaucoup de NO2, de dioxyde d'azote, et un peu de particules, mais les concentrations de particules, notamment en région Île-de-France, sont principalement du fait de la combustion au bois ou du chauffage.
Alors, Fanchon, Barbalemann, vous voulez peut-être ajouter quelque chose dans ce tableau. C'est vrai qu'au fil des années, on entend aussi dans les reportages parler en nombre de victimes, de morts prématurées, puisqu'on là, on donne le chiffre de 40 000, le nombre de décès par an. Est-ce que finalement, sur ces données-là, on peut être un peu plus précis pour bien comprendre de quoi on parle ?
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la méthode qui a été utilisée, elle est déclinable aussi à l'échelle des territoires. Et il y a de plus en plus de collectivités qui mènent des études quantitatives d'impact sur la santé pour avoir une idée de ce que ça représente au niveau de leur territoire. Et ça, c'est aussi très parlant pour les habitants, parce qu'à un niveau national, ça peut paraître très éloigné. Et quand on a une idée de se dire que c'est peut-être son voisin qui est décédé prématurément ou qui a eu un cancer à cause de ça, je pense que ça touche beaucoup plus les habitants. Et je pense que c'est un vrai travail de diffusion qui est à faire, parce que, comme le soulignait Guillaume, la pollution de l'air qui est liée au chauffage au bois, elle est très sous-estimée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectivités, quand on va leur dire, vous savez, la pollution de l'air, c'est important pour vous, ils nous disent, ben non, on n'a pas d'autoroute chez nous, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, je pense que c'est important de parler de la multiplicité des sources qui existent, et qui a la possibilité d'agir dessus. On y reviendra plus tard sur les politiques publiques.
Bien sûr, et informer et faire en sorte qu'il y ait la totale connaissance, en tout cas, oui, de ce dont on parle et pas uniquement le trafic routier. Olivier Chanel, on commence à dresser un petit peu aussi une carte, hein, et là je pense que nos auditeurs doivent être assez curieux de se dire, mais est-ce que je suis dans la bonne région ou pas? Concrètement, des populations plus fragiles ou exposées que d'autres, des zones plus à risque, qu'est-ce que vous avez pu expertiser en sachant que vous êtes surtout intéressé au volet économique dont on va parler par la suite, hein?
Oui, donc logiquement, ce sont les zones dans lesquelles la pollution est la plus élevée, donc à proximité pour le NO2 des axes routiers, et les zones qui sont soumises à des niveaux élevés de particules qui vont avoir le nombre de cas le plus élevé. Donc à savoir, ce sont essentiellement les villes pour le PM2.5 et les NO2, les parties des villes qui sont les plus proches des axes routiers principaux.
Et alors, est-ce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres ?
Oui, effectivement, même si ce n'est pas ma spécialité, ce sont les personnes les plus fragiles qui ont déjà des maladies chroniques, ou les personnes âgées, ou les jeunes enfants pour lesquels l'appareil respiratoire est encore en formation, ou les femmes enceintes qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets importants pour un même niveau d'exposition. Mmh.
Guillaume Boulanger, on peut aussi préciser qu'il y a les sportifs, hein, qui inhalent plus profondément l'air. Et c'est vrai que quand parfois on se dit, oh ben, il y a la pollution, mais je vais faire du sport, c'est pas très conseillé non plus. Et puis, ben, les fumeurs qui ont déjà un appareil respiratoire irrité par le tabac.
Effectivement, le premier point, c'est quand même de rappeler que, pour le coup, on peut pas échapper à la pollution de l'air. Et donc, toute la population est exposée à la pollution de l'air. Encore une fois, hein, je le rappelle, comme l'a souligné Olivier Chanel, de manière plus importante dans les zones urbaines denses, du fait d'une concentration, encore une fois, de certains polluants, mais également en zone rurale, on peut être exposé, d'ailleurs, à des pollutions de l'air ou à d'autres pollutions plus spécifiques. On pense notamment aux pesticides ou d'autres types de pollution. Et effectivement, sur les populations les plus vulnérables, et pour revenir à votre question sur les décès prématurés, oui, c'est que, finalement, la pollution de l'air, elle peut être à l'origine d'une maladie ou elle peut aggraver une maladie. Et donc, finalement, la personne va décéder avant l'espérance de vie qui est celle de la population,
oui, voilà,
qui était la sienne. Et donc, finalement, on utilise ce terme de décès prématuré, mais on pourra l'utiliser pour les consommateurs de tabac ou consommateurs d'autres drogues illicites ou licites. Et en fait, l'idée à retenir, c'est que voilà, on décède du fait de cette exposition de manière prématurée. Et un dernier point pour revenir sur les sportifs, parce que c'est intéressant cette question-là. Il y a plusieurs études qui ont mis en avant le fait que si on fait un ratio, une balance entre le fait de faire du sport et le fait d'être exposé à la pollution de l'air, quand on est une personne, un individu plutôt en bonne santé, il y a plutôt un bénéfice à aller faire du sport. Donc
d'accord,
il faut encourager les
quand
gens
même
à
Mais quand il y a des pics de pollution
physique. Mais quand il y a des pics de pollution ou lorsque les personnes sont vulnérables, atteintes de pathologies respiratoires, effectivement, il faut faire attention dans quel cadre et quand il faut réaliser cette activité physique.
D'accord. Alors les résultats de votre étude à l'échelle de l'Hexagone, et n'hésitez pas si vous sentez qu'il faut aussi pointer plus certaines régions plus que d'autres, on ne pourra pas tout proposer, mais je rappelle que votre rapport est aussi accessible sur le site, hein, de Santé publique France. Vous aboutissez à quoi ?
Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Fanchon tout à l'heure, il y a un intérêt, hein, parce que les leviers d'action sont au niveau national, régional et sur mesure au niveau local. Et ça sera important
d'en parler,
à discuter par la suite. Après, effectivement, il y a des variations entre les régions qui tiennent compte notamment de la démographie. Il y a des personnes âgées qui sont plus présentes dans certaines régions que d'autres. De l'état de santé, on sait qu'il y a certaines régions, notamment dans la partie nord de la France, qui ont un état de santé déjà à la base plus dégradé que dans d'autres régions. Et puis, du fait des expositions, notamment le long des axes, dans des zones très urbaines, dans toute la partie nord et nord-est, on sait qu'il y a, voilà, il y a des fortes expositions aussi à la pollution de l'air.
Et donc, selon les résultats, on se rend compte que entre 12 et 20%, par exemple, des nouveaux cas de maladies respiratoires chez les enfants sont liés à la pollution. Ça, vous aboutissez quand même à des données chiffrées. Chez l'adulte, entre 7 et 13% des nouveaux cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou métaboliques sont également attribuables à la qualité de l'air ambiant. On peut décliner de cette façon-là. Hein, pour l'asthme chez l'enfant, 30 000 nouveaux cas, soit 15% de l'asthme infantile, etc., etc. Et vous, sur chaque maladie, vous faites le constat de cette évolution, progression des maladies et donc de ces cas de mortalité prématurée?
Alors c'est la première fois qu'on publie ces chiffres et ouais. qu'on a estimé l'impact. Donc autant sur la mortalité, on a un peu d'historique de recul pour voir l'évolution, d'ailleurs en lien avec la baisse des concentrations des polluants, autant là, ça nous sert de point de repère, de référence pour la suite. Donc, sur l'évolution et l'impact, on en saura plus.
Au fil des années. Et des études.
Et des études et des concentrations, notamment sur l'évolution à la fois de la pollution, mais aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être d'inclure d'autres maladies qui disposent de données plus consolidées et pour lesquelles on pourra mieux estimer cet impact sur la santé.
Alors la nouveauté, c'est que c'est une évaluation qui, pour la première fois, prend en compte d'autres paramètres hein, que le seul volet sanitaire. Olivier Chanel, vous êtes notre économiste, en tout cas c'est vous qui avez aussi contribué à ce volet supplémentaire. Expliquez-nous comment vous avez travaillé pour ensuite aboutir à ce qu'on appelle l'impact économique, c'est-à-dire le coût vraiment pour la société de cette pollution atmosphérique.
Donc effectivement, comme cela a été précisé, ce sont bien des nouveaux cas de maladies qui surviennent dans la population. Donc ce qu'il va falloir comptabiliser, c'est l'impact économique de cette maladie sur la vie entière de l'individu s'il est affecté toute sa vie ou jusqu'à ce que la maladie disparaisse, ce qui arrive parfois assez rarement pour l'asthme. Donc pour ce faire, pour chacune des maladies, nous avons pris en compte trois composantes. Une composante sanitaire qui représente les ressources médicales et non médicales qui sont consommées. Donc par là, on entend les consultations, les médicaments, les hospitalisations, les visites aux urgences, les soins de réadaptation, mais aussi pour les AVC par exemple, l'accompagnement social et le transport, parce que ces personnes ne peuvent plus se déplacer par elles-mêmes. Donc ça, c'est la première composante. La seconde composante, ce sont les pertes de production, ce sont les ressources qui sont perdues par le patient, par ses proches ou pour la société. Donc la personne ne pouvant plus aller travailler, elle va avoir des pertes de salaire, ou si elle va travailler et qu'elle est dans un état de santé dégradé, elle va avoir ce qu'on appelle des pertes de productivité, et pour les cas les plus graves, elle va devoir prendre une retraite anticipée et aura un moindre accès au marché du travail. Donc cette composante-là est supportée par l'employeur, par l'assurance maladie et par le reste à charge pour le patient pour le jour de carence, par exemple. Et enfin, la troisième composante, c'est ce que nous avons appelé la composante intangible ou immatérielle. Elle représente les pertes de bien-être supportées par le patient et ses proches, donc essentiellement la perte de qualité de vie du fait de ces maladies, le chagrin, la peur, la douleur. Et donc ce sont ces trois composantes qui ont été calculées pour chacune des maladies et sur l'ensemble de la durée moyenne de chacune des maladies. Et donc c'est comme cela que nous pouvons aboutir aux chiffres que vous avez cités précédemment.
Et alors concrètement, ces chiffres-là, parce que vous avez travaillé vous aussi sur les particules fines et sur le dioxyde d'azote, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la répartition peut-être des coûts?
Oui, pour les particules fines, PM2.5, ce qu'on appelle le scénario sans pollution anthropique, c'est-à-dire si jamais on arrivait à ramener le niveau de la pollution française au niveau le plus bas possible observable, là, le chiffre s'élève à 12,9 milliards d'euros par an. Et ce sont les bronchopneumopathies chroniques obstructives, qu'on appelle parfois bronchite chronique, qui représentent 34%, donc 4,4 milliards d'euros. Et
Donc
là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas atteignable. Donc c'est pour ça que on appelle ça le fardeau, c'est-à-dire le poids total.
D'accord.
Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier ce que l'on gagnerait à atteindre les valeurs guides de l'OMS, donc qui sont de 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Et donc là, le chiffre est de 9,6 milliards d'euros par an. Et ce sont toujours les BPCO qui présentent la part la plus importante pour les particules. Et l'asthme chez l'enfant vient à peu près au même niveau, avec 3,2 milliards dans ce cas-là.
D'accord. Donc en tout cas, pour les particules fines, on est à peu près à 13 milliards. Et pour la pollution au dioxyde d'azote, on est à peu près à 3,8, donc presque 4 milliards. D'où le chiffre de près de 17 milliards d'euros hein, par an. Ce sont les résultats auxquels vous avez abouti. Et donc, vous venez d'en parler. Hein, on peut arriver à un moindre coût si on respecte les valeurs, les niveaux recommandés par l'OMS. Cela nous amène tout naturellement à nous poser la question de cet état de pollution aussi de l'air en France, impact sanitaire, économique, mais aussi non-respect de normes qui peut coûter cher à l'État. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 20 juin 2023.
La pollution de l'air responsable de maladies respiratoires, allergies ou problèmes de peau de leurs enfants, beaucoup de parents en sont convaincus.
Parce qu'avant, j'étais pas sur Paris à l'école, et donc je vois la différence. Avant, elle était à la campagne, et depuis qu'elle est sur Paris, il y a des changements au niveau de sa peau.
Quand c'est pollué, on évite au maximum de les faire sortir.
Pour la première fois, l'État va devoir indemniser des familles. 3 000 euros pour les parents d'un bébé hospitalisé pour bronchiolite, victime de crises à répétition et d'asthme du nourrisson. 2 000 euros pour celle d'une fillette souffrant d'otites répétées. Tous vivaient près du périphérique. Le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour ne pas avoir limité les dépassements de concentration de polluants atmosphériques en Île-de-France.
La juridiction n'a pas non plus ouvert la boîte de Pandore en disant toutes les personnes qui ont des toux quand il y a des pics de pollution peuvent prétendre à indemnisation. On est vraiment sur des cas spécifiques, on est quand même sur des cas de familles qui ont dû déménager pour soustraire leurs enfants à la pollution de l'air.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Un reportage intéressant qui montre que des condamnations, hein, des sanctions financières aussi sont données. L'État français s'est vu condamné ces dernières années à plusieurs reprises. Alors, soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de justice européenne, la Cour d'appel de Paris. Et tout cela, bien sûr, ce chiffre passe forcément à quelques milliers d'euros, comme on l'a entendu sur le cas de ces deux familles, mais à coût de millions d'euros, qui veut peut-être commencer sur ce terrain-là, justement, ces sanctions, et donner à comprendre pourquoi est-ce que l'État se retrouve dans cette situation-là. Fanchon Barbaleman.
Oui, donc, en fait, je pense que ce qui est important, juste pour le remettre dans l'ordre, c'est qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure des normes de l'Organisation mondiale de la santé.
Exact.
Qui sont incitatives et qui ne sont pas réglementaires.
D'accord.
C'est l'Union européenne qui fixe les normes réglementaires à atteindre. Et elles ont été revues très récemment, en novembre 2024. Et donc, elles ont été divisées par deux par rapport à ce qui était attendu jusqu'ici. L'ancienne directive datait de 2008, c'était un petit peu vieux. Donc, grâce au progrès de la science, on a pu revoir à la baisse les seuils sous lesquels la pollution devait être ramenée. Mmh. Mais la marche est encore très haute à atteindre aujourd'hui. À partir de 2030, par exemple, donc avant, jusqu'ici, les normes OMS sur le NO2, par exemple, c'était 40 microgrammes par mètre cube. On va les ramener à 20 microgrammes par mètre cube, alors que l'OMS préconise 10, par exemple.
D'accord.
On est encore très loin. Et ces valeurs réglementaires, on n'arrivait déjà pas à les respecter avant. Et là, la marge va être encore plus haute en 2030. Mmh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui va devoir être mis en place. Et dans cette nouvelle directive, il y a aussi la possibilité pour les citoyens de monter des actions en justice qui va être un petit peu plus étendue. Et donc, il faut s'attendre aussi, avec l'amélioration des connaissances, à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent appel à la justice, puisque leur droit à respirer un air sain qui devrait être garanti n'est aujourd'hui pas respecté, alors que des outils existent. Et c'est bien pour ça que la France a été pénalisée, c'est vraiment pour manque de mesures. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait des choses, on n'y arrive pas, c'est qu'il n'y a pas assez de politiques publiques qui sont mises en place en France à l'heure actuelle pour protéger la santé des populations. Je pense que c'est important de se rendre compte que ce serait possible, et c'est ce que l'étude montre, c'est évitable, mais aujourd'hui, les moyens ne sont pas mis sur la table pour protéger la santé des habitants.
Guillaume Boulanger, alors on peut donner des chiffres hein, quand même, parce que la France, enfin l'État a déjà dû payer plusieurs dizaines de millions d'euros, on est à combien à peu près?
Alors aujourd'hui, effectivement, il y a à la fois une action qui est intentée au niveau européen et aussi il y a eu des décisions du Conseil d'État donc la plus haute juridiction en France, qui a donc sommé l'État de respecter les valeurs réglementaires européennes. Et pour cela, il a eu une démarche plutôt itérative de d'assigner des astreintes à l'État, donc une première de 40 millions, en demandant donc à l'État d'agir. Au bout d'une certaine période, l'État n'ayant pas suffisamment agi, il a à nouveau demandé une nouvelle astreinte de 20 millions, qui est peut-être renouvelable dans les prochains mois, jusqu'à ce que l'État se mette en conformité. Peut-être c'est intéressant d'avoir une perspective historique et de dire que depuis une vingtaine d'années, et d'ailleurs sous l'impulsion beaucoup de l'Europe et des valeurs réglementaires qui ont été évoquées précédemment, il y a une diminution de la pollution de l'air en France sur le territoire. On voit que notamment le plomb n'existe plus dans l'essence, il a quasiment disparu. Le dioxyde de soufre qui est beaucoup émis par les industriels également a beaucoup diminué, voire plus de 90%, lié à beaucoup de leviers, notamment des filtres, des changements de production, etc. Et le dioxyde d'azote et les particules aussi. Donc il faut tenir compte de cette évolution historique.
Parce que vous dites, on part de loin quand même.
Voilà, on part de loin, mais il y a eu des efforts et des plans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans l'étude qu'on a publiée à Santé publique France, on a estimé l'impact à la fois du fardeau total, c'est-à-dire quel serait l'impact s'il n'y avait pas de pollution en lien avec les activités humaines. Mais on a fait d'autres scénarios. Et si on atteint les valeurs guides de l'OMS, qui ont été évoquées tout à l'heure, on supprimerait 75% du fardeau, c'est-à-dire de l'impact total. Donc on voit qu'on supprimerait une grande partie du fardeau de la pollution de l'air. Et si on atteint les valeurs réglementaires, qui seront proposées et qui seront atteintes en 2030, donc qui ne sont pas encore aujourd'hui en application, on éviterait 15% de l'impact total. Donc on voit qu'il y a encore du chemin et on est sur la bonne voie, mais il y a encore effectivement une grande marche. Et nous, Santé publique France, évidemment, on prône d'atteindre rapidement ces valeurs guides qui sont proposées par l'OMS. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir suite à votre reportage, c'est sur la question de ces familles qui ont pu déménager. Ça pose la question quand même de
toutes celles qui ne peuvent pas aussi.
Et voilà, et de l'inégalité face à cette pollution de l'air. Encore une fois, ça passe par des leviers collectifs. Il y a aussi des solutions individuelles, mais on voit bien que la question des inégalités est assez prégnante autour de ce sujet.
Olivier Chanel, vous voulez réagir sur ce terrain-là ?
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Guillaume. D'un point de vue économique, ce sont les populations qui ont les revenus les plus faibles, le niveau d'éducation le plus faible, les minorités ethniques, les migrants, qui sont généralement dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire qu'elles ont un état de santé qui est dégradé, d'une fait d'une mauvaise alimentation, de facteurs de stress financiers, psychosociaux, plus de maladies chroniques. En plus, elles ont des capacités financières plus faibles que la moyenne pour se soustraire à ces niveaux de pollution élevés, c'est-à-dire déménager, comme on vient de l'évoquer, ou utiliser des moyens de transport qui les exposent moins à la pollution de l'air, ou avoir des emplois qui les exposent moins à des expositions professionnelles. Et par ailleurs, en plus de tout ceci, elles ont parfois un déficit d'information, un manque d'information sur l'exposition environnementale et sur la compréhension des effets sur la santé. Et donc, elles reçoivent les messages des pouvoirs publics qui demandent de réduire son exposition les jours de pollution élevée ou en général de façon moins pertinente. Et elles ont des réactions qui sont peut-être moins adaptées que les populations les plus favorisées. Et donc, tout ceci contribue à une potentielle susceptibilité plus élevée de ces populations à un même niveau d'exposition à la pollution de l'air. Et par ailleurs, là, ça dépend des villes et ça dépend des indicateurs de pollution. Elles peuvent être plus exposées à un polluant donné que les populations les plus favorisées. Mais ce n'est pas systématique, ça dépend de la structure des villes.
D'accord. Fanchon Barba-Lehmann, vous faites partie du réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Vous l'observez, ça, sur le terrain, on imagine, et peut-être que vous pouvez nous en dire plus, à la fois sur ces questions-là, d'inégalité. Et puis aussi, on n'a pas posé la question, mais qu'est-ce qui empêche l'État de monter la marche, en fait, et d'être beaucoup plus vaillant sur les mesures à prendre ?
Pour juste redonner une idée du nombre de collectivités qui seront concernées, qui seront encore en dépassement très certainement en 2030, parce qu'on parle beaucoup de Paris, de Marseille, de Lyon, mais sur les 41 plus grandes collectivités françaises, aujourd'hui, il y en a une dizaine qui respectent les valeurs réglementaires qu'on devra respecter en 2030. Donc, on peut imaginer qu'avec un renouvellement du parc automobile...
On peut les mentionner ou pas ? La dizaine à peu près ou quelques-unes ?
Je ne les connais pas par cœur, mais je dirais qu'il y a Saint-Nazaire, je dirais qu'il y a Angers, je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont plus près du littoral.
D'accord.
Donc qui ont forcément aussi des vents favorables.
Oui, c'est ça.
De toute façon, il y a une certaine injustice géographique
qui permet.
Tout à fait. D'accord. Et donc il y a approximativement une quinzaine de collectivités qui seront très très loin du compte en 2030. Je pense à Toulouse, à Toulon, à Perpignan, Strasbourg, Grenoble qui sont déjà concernées, Rouen aussi. Mais donc il y a quand même des millions d'habitants qui seront au-dessus des valeurs réglementaires et qui respireront un air pollué, avec aussi, donc, comme le soulignait Olivier Chanel, beaucoup de populations qui sont précaires aussi. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les politiques publiques qui sont mises en place pour justement lutter contre la pollution de l'air, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur l'énergie, souvent c'est des politiques publiques qui sont aussi moins favorables à ces personnes-là, qui les touchent moins. Par exemple, tout ce qu'on met en place sur les transports publics ou sur les aides à l'achat de véhicules électriques, c'est pas forcément les personnes précaires qui en bénéficient le plus, alors qu'à contrario, c'est elles qui contribuent généralement le moins à la pollution de l'air. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un accompagnement qui est dédié aux publics les plus précaires, pas forcément juste dans l'achat d'un véhicule électrique qui coûte très très cher. En partie, oui, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas s'en passer. Mais sur le développement des transports collectifs, il faut aussi qu'on ait une attention particulière pour toucher des personnes qui sont aujourd'hui, qui en sont éloignées, puisque cette précarité mobilité, elle entraîne d'autres précarités. C'est-à-dire que quand on ne peut pas se déplacer, on a un moindre accès à l'emploi, un moindre accès aux soins, un moindre accès aux droits. Et donc, en fait, de ces inégalités-là, en découlent beaucoup d'autres. Et donc, je pense que c'est...
Et des fragilités.
Tout à fait.
Alors, on peut mentionner quand même que l'Île-de-France, donc les agglomérations lyonnaises, lilloises, la zone frontalière entre l'Alsace et l'Allemagne, je crois, et le littoral de Provence-Alpes-Côte d'Azur seraient les plus touchés, c'est ça, par ces pollutions de l'air ambiant extérieur. Oui. Guillaume Boulanger.
Oui, comme je l'indiquais, hein, c'est que c'est effectivement lié notamment à un état de santé déjà des populations qui vivent sur ces territoires, la démographie avec parfois des populations plus âgées, et puis effectivement des circonstances ou des caractéristiques à la fois d'activité mais aussi géographique, hein. Grenoble est une ville assez active mais dans une cuvette, et donc c'est très compliqué de pouvoir justement atteindre les normes du fait du relief. C'est aussi le cas sur un site ou une vallée qui est assez emblématique sur la question de la pollution de l'air, qui est la vallée de l'Arve, où là la question était le trafic, puisqu'elle est traversée notamment par des autoroutes mais aussi par une combustion au bois très forte, et donc une vallée assez encaissée, et donc voilà, toutes ces dimensions font que chaque territoire peut être impacté par la pollution de l'air, mais notamment ceux que vous avez cités sur le front est et sud et nord de la France.
Ce qui ne veut pas dire hein, que rien n'est fait sur le territoire. On va bien sûr en parler dans cette deuxième partie d'émission pour prendre la mesure aussi de l'importance des politiques publiques et de cet alignement hein, sur les valeurs réglementaires maximales d'exposition. Alors si possible, les valeurs de l'OMS qui sont certainement les plus draconiennes. À ce stade de l'émission, donc Fanchon, Barba, Lehmann, vous nous avez proposé un choix musical. Hein. Alors c'est une chanteuse que beaucoup aiment, ouais, et vous, vous êtes une fan de Zao de Sagazan, mais c'est un choix musical quand même assez particulier. On n'a pas forcément l'habitude de l'entendre. C'est lequel ?
C'est son duo avec Tom Odell, que je trouve très poétique et qu'on connaît un petit peu moins, et que je trouve assez doux et mélodique, et moi ça me fait beaucoup de bien de l'écouter.
Old Friends.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Quand La machine m'emporte vers les paysages. Il vient et m'apporte tes larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I am very proud of the person you've become. Where I am weak, oh, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. Feel a storm underneath my wing. And I know we'll be friends until the bitter end. Yeah, I know we'll be friends till the bitter end. Don't have worry, don't have worry, don't have worry, don't have worry.
C'était Zao de Sagazan et Tomodel, All Friends. Et c'est la suite de Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct. Et nous portons notre regard sur le rapport de Santé publique France qui tire la sonnette d'alarme sur la pollution de l'air ambiant en France, ses conséquences sanitaires et économiques, avec 40 000 décès par an et près de 17 milliards d'euros par an. Nous en discutons avec nos trois invités. Guillaume Boulanger, responsable d'unité qualité des milieux de vie et de santé des populations. Vous êtes à Santé publique France, j'allais dire aussi à la direction santé, environnement, travail. Voilà, mentionnons aussi la direction. Et vous êtes co-coordinateur du rapport rendu public fin janvier. Co-coordinateur avec Olivier Chanel, directeur de recherche au CNRS, École d'économie Aix-Marseille. Et Fanchon Barba Lehmann est avec nous aussi, coordinatrice du réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Alors, dans ce tableau de la France hexagonale, eh bien, il y a des régions et des villes qui peuvent devenir des modèles.
Les vélos jaunes, ils sont partout. 5000 vélos sur 300 km de pistes cyclables. Une location à l'année.
Je paye 85€ en début d'année, j'ai une caution et si tout se passe bien, à la fin de l'année, on me la rend. Et je me sens plus libre de mon temps, j'ai pas à attendre un tram, là je gère mon temps moi-même.
Et à ce prix-là, l'entretien du vélo est inclus. Des efforts qui ont permis de réduire en 7 ans les émissions polluantes de 18% sur l'agglomération grenobloise. Conséquence, chaque habitant rejette 5,3 tonnes de CO2 par an, soit 30% de moins que la moyenne nationale. Plus radical, Montpellier a chassé la voiture du centre historique. Dans les rues, c'est la fête pour les piétons. Le secteur leur est exclusivement réservé.
C'est pas possible de se garer en ville où c'est très cher. Donc je laisse ma voiture dans les villages et je prends le tram.
Aucune voiture n'est autorisée sur 24 km de voie depuis plus de 10 ans. Seul un accès limité aux riverains et aux livreurs pendant 30 minutes, deux fois par jour, pas plus.
J'ai la carte pour entrer dans le centre-ville, donc l'accès. Donc voilà, je viens me faire la livraison. J'ai un quart d'heure pour rester. Et après, je vais me garer au parking.
Se préoccuper de l'air qu'on respire incite de plus en plus les villes à trouver de multiples solutions plus respectueuses de l'environnement.
Grenoble, Montpellier. C'était un reportage diffusé en 2016. Alors 2016, on peut se dire, bon, voilà, 9 ans après, où on en est. Fanchon, Barbat-Léman, ce sont des villes que vous connaissez. Hein, est-ce qu'on peut parler de villes modèles? Et puis dites-nous peut-être à quoi ressemblent ces territoires où on respire un autre air, où on tente en tout cas d'améliorer l'air, ou ce qu'il faudrait faire.
Alors,
beaucoup
oui,
de choses.
C'est des villes qui sont membres de notre réseau, donc qui sont particulièrement volontaristes sur cet enjeu de qualité de l'air. Malheureusement, ce n'est pas forcément les villes qui mettent le plus de choses en place qui bénéficient du meilleur air, puisqu'elles ne partent pas toutes du même point,
oui.
Pour des raisons géographiques, pour des raisons de politique publique aussi. Là, on était en 2016. Mmh. Les politiques publiques mettent un temps long à se développer. Une piste cyclable, ça peut être plusieurs années. Les réseaux de transport en commun, j'en parle même pas. C'est à l'échelle de plus d'un mandat parfois. Forcément.
Et ça peut être détricoté aussi.
Et ça peut être détricoté, et ça peut être refusé, comme ça a été le cas à Strasbourg très récemment pour un projet de tram nord. Et donc, en fait, ce temps-là est un temps très long. Quand on met en place une mesure aujourd'hui, c'est pour des effets qui seront bénéfiques d'ici plusieurs années. Moi, je voulais revenir aussi sur cet enjeu du vélo. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité, on parle beaucoup du vélo. Et dans les pôles urbains, c'est vrai que c'est un très bon outil, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, 40% des trajets qui font moins de 3 km sont faits en voiture, en ville. Et donc, c'est forcément pour des petits trajets, le vélo peut paraître... le vélo est la bonne solution, à condition que ce soit sécurisé. Mais ce qui me semble important, c'est surtout de parler des transports collectifs, parce que tout le monde ne peut pas faire du vélo, pour des raisons de santé, pour
de multiples
raisons. Et ces questions de mobilité, elles touchent aussi les personnes qui habitent en dehors des pôles urbains. Et donc, il y a aussi une question d'équité sociale et d'équité spatiale. Il faut accompagner les habitants qui vivent en dehors des pôles pour qu'eux puissent se rendre dans les pôles urbains, puisque c'est ici que se concentrent toutes les activités. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi une collaboration entre les différents échelons. C'est ce qui est fait aujourd'hui à l'occasion des CERM, des schémas... régionaux, j'ai plus l'acronyme en tête, mais qu'il y a des collaborations entre les régions et les collectivités pour relancer des lignes ferroviaires, parce que la mobilité, c'est pas juste le vélo, c'est important qu'il y ait du vélo, mais c'est surtout important de pouvoir développer des transports en commun, et c'est ce que font vraiment les collectivités qui sont les plus ambitieuses, développer les réseaux de bus, développer les réseaux de métro, de tram, de car, etc.
Guillaume Boulanger.
C'est intéressant de souligner que maintenant... qu'on a ce constat, on a une vision à 360 degrés de l'impact de la pollution de l'air qui constitue encore une fois l'un des premiers fardeaux environnementaux en termes de santé publique. Et on a un recul de plusieurs dizaines d'années sur des initiatives qui sont portées par des villes. Dans le cadre d'un projet qu'on a porté il y a quelques années, on a fait ce catalogue. L'idée maintenant, c'est de partager ce catalogue, comme le fait l'Alliance pour les collectivités et par d'autres acteurs, et de partager ces expériences pour mettre en place ces solutions. On est en retard par rapport à des pays du nord de l'Europe qui atteignent notamment ces valeurs réglementaires, qui ont modifié sur des temps longs, des décennies, l'urbanisme de leur ville. Et donc, effectivement, on sait que ça marche. Voilà, on sait que ça marche.
Par exemple, vous parlez d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'on peut mentionner peut-être des pays plus vertueux? Et la France se situe, est-ce que vous le savez, ou dans quelle fourchette?
Alors, on peut citer des pays plus vertueux, je pense notamment au Danemark, à la Suède, à la Finlande, voilà, ces pays qui sont précurseurs, en tout cas, sur cette thématique-là. Il y a des villes comme Copenhague ou aux Pays-Bas également. On sait qu'il y a une forte mobilité, notamment avec le vélo aux Pays-Bas. Donc, tous ces pays-là nous servent un petit peu d'avant-garde, en fait, pour nous guider sur ces actions, encore une fois, qui ont des résultats, qui montrent des baisses importantes de la pollution de l'air.
Et la France est mauvaise élève, hein, parce que quand on regarde vos cartes, tout le monde, toute la France est rouge pour la pollution atmosphérique.
La France est parmi pas les élèves les plus vertueux, donc voilà, je le formulerai comme ça, notamment effectivement pour le respect des valeurs européennes, des valeurs réglementaires. Les pays de l'Est, du fait d'un historique, sont plus en retard, une forte industrie, enfin voilà, donc c'est plus compliqué, mais effectivement on fait pas partie des bons élèves au niveau européen. Le second point en termes de santé publique, oui, qui est important à noter, c'est que voilà, quand on introduit des mobilités douces, la marche à pied, le vélo, les transports en commun.
Et avec des copains aussi,
pourquoi pas.
C'est pas interdit.
Il y a effectivement des impacts sur la pollution de l'air, et donc une réduction de cet impact, mais aussi ce qu'on appelle des co-bénéfices. C'est-à-dire que de marcher, de faire du vélo, ça a des impacts sur notre santé en termes d'activité physique. Quand on modifie une ville et qu'on insère notamment des espaces végétalisés, ça a aussi un impact sur la santé. On sait, des études montrent, que la mise en place d'espaces végétalisés au sein des villes améliore la qualité de vie et réduit la mortalité. Donc on voit bien que finalement, à travers ce prisme de la pollution de l'air, il y a aussi des co-bénéfices. Je pourrais élargir aussi au changement climatique en modifiant aussi l'urbanisme des villes dans une thématique un peu plus large qu'on retrouve un peu et qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé.
Olivier Chanel, sur ces points-là. Alors, je précise que dans l'étude, vous proposez aussi des leviers d'action, tout ce qu'il faudrait aussi mettre en place, à la fois côté politique publique, mais aussi des actions possibles au niveau des citoyens.
Oui, donc effectivement, il y a un certain nombre de leviers d'action et on pourrait s'interroger sur le fait qu'on a chiffré, grâce à cette étude, le poids énorme qui vient en plus de la mortalité en termes de morbidité. Donc il y a un impact direct sur les coûts sanitaires et sur la production française. Et on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas plus d'action maintenant que le constat est fait et que les chiffres sont donnés. Et je pense qu'une partie de la réponse a été donnée par Fanchon, à savoir la temporalité, c'est-à-dire que les politiques pour être mises en œuvre sont relativement longues et vont produire une réduction de l'exposition de la population dans un temps plus long qu'un mandat. Et dans le même temps, puisque nous nous intéressons dans ce travail à des effets sanitaires de long terme, ce sont des processus cumulatifs qui vont conduire à des cancers du poumon, à des AVC, à des bronchopneumopathies chroniques obstructives, et ces maladies elles-mêmes vont mettre du temps à se développer. Donc le premier frein, c'est cette temporalité. Le second frein, c'est la visibilité, puisque ce sont des proportions, mais on n'identifie pas les individus spécifiquement qui vont ne pas avoir un cas d'AVC du fait d'une baisse de la pollution. Ça sera statistiquement, sur l'ensemble des cas, il y aura une proportion, on est quasi certain ou certain qu'il y aura une diminution, mais on ne peut pas identifier les individus. Donc c'est assez difficile de mettre des visages sur les maladies qui seront évitées. Et le troisième frein, me semble-t-il, c'est que, comme vous l'avez dit, comme cela a été dit, il y a plusieurs leviers d'action. Donc il y a plusieurs ministères qui sont impliqués, il y a plusieurs niveaux de décision, locaux, régionaux, nationaux, selon les leviers d'action mobilisés. Et donc les effets positifs en termes sanitaires, en termes de baisse de la mortalité, seront supportés par le système de santé et le système de production, par exemple, et les individus, mais ce ne sont pas les décideurs locaux, régionaux, nationaux qui ont mis en œuvre ces politiques qui vont en tirer un bénéfice direct. Donc il y a un problème de mise en relation entre prendre une politique qui va être coûteuse à la fois socialement, en termes d'acceptabilité et en termes financiers, et puis les bénéfices qui en seront retirés seront dilués, ne seront pas facilement identifiés et seront obtenus dans un temps long.
C'est intéressant parce que vous parlez justement de cette question d'acceptabilité. Nous allons en parler dans un instant après avoir écouté un reportage diffusé sur France Culture, un reportage de la rédaction en date du 27 janvier 2025. Il s'agit de la question des ZFE, les zones à faible émission, qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants, classés selon les vignettes critères. Et donc, elles concernent des métropoles, dont le Grand Paris, Lyon, Grenoble, le Pays Basque, je crois. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des dérogations, des remises en question aussi de la pertinence du dispositif. Et je vous propose d'écouter d'abord la réaction de ce radiologue.
Pour Thomas Bourdrel, un mauvais signal envoyé aux automobilistes. Ce radiologue a créé le collectif Strasbourg Respire. Il signe avec d'autres médecins une tribune pour expliquer que la qualité de l'air à Strasbourg reste un problème de santé majeur.
Ce qu'on a mal vécu, c'est que la municipalité a justifié ce recul de la ZFE en disant, je reprends leurs mots, ça fonctionne, donc on arrête. Donc pour nous, en tant que médecins, c'est un peu comme vous prescrivez un traitement à un patient, vous lui dites ça fonctionne, donc on va arrêter, on verra. Et vous voyez voyez, là, on sort d'un pic de pollution très intense qui a duré 3 jours. On est complètement dépendant de la météo à Strasbourg. On est dans une cuvette comme à Grenoble. Il suffit qu'il n'y ait pas de vent, pas de pluie pendant quelques jours et on est en pic de pollution. Surtout, nous, en tant que médecins, la marche des critères 3, c'était une des plus importantes parce que les critères 3, c'est vraiment ce qui pollue le plus. Hein. C'est vraiment les vieux diesels de plus de 11 ans. En termes d'émissions de particules fines de dioxyde d'azote, c'est ce qui est le plus toxique. Des effets cancérigènes, des effets cardiovasculaires, respiratoires sur le fœtus. C'est vraiment là-dessus, en termes d'impact sur la santé, qu'on aura le plus gagné.
Alors comment expliquer ces dérogations, assouplissements, exemptions qui, j'allais dire, ruinent l'efficacité du dispositif, mais c'est un dispositif qui fonctionne quand même, Fanchon-Barba-Lehmann.
Alors, les ZFE sont mises en place dans d'autres pays que la France depuis des années et c'est un dispositif qui a fait ses preuves. À Londres, par exemple, il y a eu des baisses de NO2 de jusque 20% dans l'ultra low emission zone, jusque 15% des PM2,5. Mais c'est parce qu'ils sont allés très loin dans l'exclusion des véhicules. Là, Thomas Baudrel parlait des véhicules 3. Eux, ils sont allés jusqu'aux véhicules 2 qui concernent plutôt les diesels. Enfin, c'est pas les mêmes normes que les normes françaises, mais ça correspond à peu près à ça. Et donc, la ZFE peut fonctionner, l'exclusion des véhicules les plus polluants améliore la qualité de l'air, mais il ne faut pas que ça entraîne l'exclusion des personnes non plus.
Ah oui. Alors NO2, NO3, il faut peut-être qu'on explique quand même de quoi on parle.
J'ai dit NO3.
Oui, ou non, NO2 et critère 3, la vignette 3, pardon. NO2, voilà, rappelons peut-être ce que c'est.
Le dioxyde d'azote, oui. Donc c'est un polluant. Et les critères 3, c'est-à-dire que les voitures sont classées par... ordre de mise sur le marché en France par leur date d'immatriculation et leur énergie, donc
c'est ça.
Diesel, essence ou véhicule électrique, et elles sont classées de 0 à 5, voire des non classées. Voilà. Alors que dans les autres pays européens, on utilise la norme Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a encore fait différemment en France, mais c'est à peu près sur le même système. Et donc oui, c'est vrai que les collectivités reculent aujourd'hui, parce qu'elles ont eu très peu de temps pour mettre en place ces ZFE, trop peu de temps. Comme je le disais, en fait, interdire des véhicules, c'est bien, mais il faut que les gens ils aient d'autres moyens de se déplacer. C'est des politiques publiques qui mettent un temps long. Et donc, pour que le dispositif soit efficace, il faut aussi qu'il soit juste. Et donc, il faut développer davantage de politiques publiques. Et aujourd'hui, vu les restrictions budgétaires que connaissent les collectivités, que connaît le pays, notamment avec le vote hier, le passage en force sur le budget, avec des baisses liées à la transition écologique qui sont très très fortes, notamment sur les mobilités, notamment sur l'énergie, c'est un très mauvais signal envoyé justement pour mettre en place des politiques publiques qui vont améliorer la qualité de l'air.
Parce qu'on parlait dans l'émission des condamnations donc de l'État français, mais des villes peuvent être condamnées, ou des élus. Qu'est-ce qui, finalement, vous disiez, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Mais cet argent, on voit bien que de plus en plus de communes manquent d'argent, justement. Alors, l'État lutte aussi contre sa dette. C'est quoi les solutions idéales pour pouvoir quand même répondre à ces questions de santé publique et lutter contre la pollution de l'air ambiant et donc mettre des moyens suffisants pour faire que socialement, ce soit aussi équitable.
Ce qui est triste d'une certaine façon, c'est que en fait, ça coûterait moins cher de mettre en place des mesures aujourd'hui, aussi chères coûtent-elles, que d'attendre juste que la situation continue de se dégrader à Grenoble. C'est une étude qui a été menée justement, qui montre ça, qui s'appelle Mobilair, qui a été coordonnée par des épidémiologistes, des économistes, des ingénieurs qualité de l'air, et
vu les impacts économiques de la pollution atmosphérique.
Exactement. En fait, les élus ont décidé de plusieurs scénarios. Si on voulait baisser de 67% la mortalité à Grenoble, il faudrait mettre en place telle politique publique. Ça aurait tel coût. Et en fait, sur une dizaine d'années, un peu plus, ce serait sociétalement bénéfique de mettre en place ces politiques publiques aussi chères coûtent-elles. Donc en fait, l'investissement, si on le fait maintenant, c'est pour avoir des bénéfices sur le long terme.
Comment vous travaillez justement avec le réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l'air sur le terrain, sur le territoire, à la rencontre des élus, des pouvoirs publics pour faire avancer? Parce qu'on a bien compris aussi qu'il y avait une méconnaissance quand même de ces sujets, à la fois côté citoyen et côté élu. Et en même temps, ces questions, on parle de mort quand même, hein, 40 000 par an, ce n'est pas rien. Et donc, comment vous faites pour essayer de convaincre justement d'agir ?
Justement, c'est particulièrement important qu'on puisse faire connaître ces études, faire connaître les travaux aux élus, aux décideurs publics. Nous, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner dans une montée en compétences, parce que c'est un sujet qui est quand même très technique, la pollution de l'air, qui touche beaucoup de champs, l'énergie, l'aménagement, la mobilité, etc. Et donc l'idée, c'est que les élus, les collectivités soient pas isolées quand elles décident de s'attaquer à ce problème et qu'elles puissent profiter de l'expérience des unes, des autres. Nous, on veut vraiment mettre en réseau, favoriser une montée en compétences, que les uns puissent s'inspirer des autres et pas repartir de zéro, alors que leurs collègues à quelques dizaines, centaines de kilomètres ont déjà expérimenté des politiques publiques, des projets qui ont porté leurs fruits.
Bon, ceux qui étaient des laboratoires d'expérience deviennent des modèles.
Hein, exactement.
C'est ça. Guillaume Boulanger, alors on parlait au début aussi de l'émission, des différents postes qui génèrent ces pollutions, et vous parliez de l'agriculture, le développement des bonnes pratiques agricoles, ce serait quoi ?
Alors, on a plusieurs qui sont en réflexion ou en application, notamment... Souvent, au printemps, on a des pics de pollution qui sont liés notamment à une activité agricole et l'épandage. L'épandage est une source importante de particules. Et donc, il y a des solutions pour réduire justement la dispersion, la diffusion de ces épandages. On sait aussi...
Les émissions d'ammoniac et de méthane, qui génèrent des microparticules.
Exactement. Parce qu'en termes de pollution, alors je l'ai pas rappelé au début, mais la pollution de l'air, c'est plus d'une centaine, voire de milliers de substances, de composés, de gaz. Et en fait, quand on parle de particules ou de dioxyde d'azote, c'est des traceurs, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle un proxy qui va nous permettre un petit peu d'identifier ou d'avoir le reflet de cette soupe de polluants. Et donc, il y a des émetteurs directs. Le dioxyde d'azote est beaucoup émis par le trafic. Et l'ammoniac qui est émis se transforme et finalement se combine avec d'autres polluants pour former des particules dans l'air. Donc, il y a des solutions qui existent, encore une fois, et qui peuvent être mises en place pour l'agriculture ou pour les autres sources d'émissions.
Alors, on imagine que chacun aura à cœur d'aller voir l'étude pour voir sa région ou sa zone d'habitation. Dans le casque, on me dit, et à Paris, avec tout ce qui a été mis en place, Paris va mieux avec les pistes cyclables, les vélos ou pas ?
Oui, Paris a une vraie action volontariste sur le sujet et qui s'inscrit pour le coup sur le long terme depuis plusieurs mandatures maintenant. Et l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air qui s'appelle Air Parif montre bien une baisse importante du NO2, donc qui est un traceur du trafic et des particules à Paris, avec des baisses de plus de 50% depuis une dizaine d'années, du fait effectivement à la fois de la modification du parc automobile, de meilleures technologies, mais aussi des politiques publiques qui ont été mises en place et de réduction, on l'a vu, de la part importante du trafic à Paris.
Comme il y a encore des crispations, on imagine que l'accompagnement doit encore être très présent, peut-être, et pour proposer toutes les solutions. Nous n'aurons pas le temps de parler, enfin, où il nous reste une minute pour au moins dire que nous avons parlé de la pollution de l'air ambiant extérieur, mais en intérieur, Guillaume Boulanger, c'est un dossier que vous connaissez bien. Là aussi, la pollution de l'air intérieur entraîne environ 28 000 Français par an, j'ai lu ça, et en matière de coûts, c'est là aussi plusieurs millions ou milliards d'euros, non ?
Oui, plusieurs
milliards d'euros.
Oui, oui. C'est important de souligner le fait que finalement, en France, la population passe près de 80-90% dans les environnements intérieurs. On est très peu à l'extérieur, en fait, on est surtout à l'intérieur. Et qu'il y a des transferts importants de pollution de l'air extérieur à l'intérieur, mais aussi des sources à l'intérieur, la peinture, la combustion d'encens, de bougies. Donc il y a plein de sources de pollution. Et il faut agir aussi sur ces sources de pollution. Et là, on est beaucoup plus, en retard que en termes de connaissances, en termes d'action, que la pollution de l'air ambiant. Donc c'est encore un champ très ouvert.
Donc respirer en intérieur ou en extérieur, en tout cas, allez vous renseigner, regardez, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, les études de Public Santé France, puisque tout est détaillé. Écoutez, merci à tous les trois. Guillaume Boulanger, le site donc de Santé publique France, vous l'avez aussi en lien sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, pour découvrir au moins ce dernier rapport et les autres. Olivier Chanel, à découvrir votre livre coordonné avec Guillaume Faburel et intitulé « L'environnement dans la décision publique », paru chez Economica. Et puis Fanchon Barba-Lehmann, bien sûr, direction le site du réseau Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Et comme d'habitude, toutes les informations vous attendent sur franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts sur ces questions de santé vous ont été préparés.